La matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris. L'actu engagée.
Un petit village antifasciste vers la Sorbonne.
La culture décalée.
J'ai découvert ses albums et j'ai pété une pile.
Le sujet étudiant.
Pour moi, la démocratie étudiante, elle se fait dans les AG, dans les mobilisations.
Et ce qui se passe en Ile-de-France.
Le but, c'était en fait de préserver les terres agricoles autour de la capitale.
Du lundi au jeudi, de 19h à 20h, sur Internet, sur le DAB+, et sur le 93.9 FM.
Bonne nouvelle pour les radios libres, les vraies, celles qui font entendre la diversité des voix citoyennes. Le gouvernement a finalement décidé de maintenir les subventions accordées aux radios associatives pour 2025. Oui, vous avez bien entendu. Après avoir prévu une coupe de près de 30% dans le budget FSER, le fameux fonds de soutien à l'expression radiophonique, l'État a fait marche arrière. Il faut dire qu'entre les pétitions, les courriers et les tribunes, la colère grondait. Et pas qu'un peu. Parce qu'on parle ici de la survie de 750 radios à travers le pays. Des médias qui informent, qui éduquent, qui forment et qui font vivre le territoire. Bref, de tout ce que ne font pas les grandes antennes formatées. Alors oui, on peut souffler un peu, mais pas trop fort non plus. Parce que ce maintien, c'est pas une victoire triomphale, c'est plutôt un sursis. Les financements restent fragiles, les coûts augmentent et les missions de service public des radios associatives, elles, ne cessent de s'élargir. Et pendant ce temps-là, certains élus, coucou le Rassemblement National, tentent encore de restreindre la liberté de ton de ces médias, sous couvert de valeurs républicaines. Mais si les radios associatives tiennent bon, c'est qu'elles ont la conviction que la parole locale compte, qu'une chronique faite par un ou une étudiante, qu'une émission sur la précarité menstruelle, c'est aussi ça le service public. Alors on ne lâche rien. Défendre le FSER, c'est pas juste un budget, c'est défendre un espace de liberté. Et sur Radio Campus Paris, cette liberté, elle s'écoute, se raconte et se vit.
Au sommaire ce soir, dans la matinale, on reçoit en première partie d'émission Bernard Lou, porte-parole du collectif Oui aux Terres de Gonesse et le groupe de punk électro Le Roi se meurt. Ce sera en deuxième partie d'émission, alors restez avec nous. Et puis la chronique d'Ève qui nous parlera du fameux vol du bijou au Louvre, ce sera en toute fin d'émission. Pour sa chronique libre, Arthur nous parlera de Sarkozy et de son séjour en prison, on a hâte d'en savoir plus.
Mais tout de suite, on se penche sur l'avenir du Triangle de Gonesse. Pour en parler avec nous ce soir, Bernard Lou, activiste depuis 10 ans pour la préservation des terres agricoles en Ile-de-France. Pour commencer cette matinale, nous recevons donc Bernard Lou, porte-parole de l'association Oui aux Terres de Gonesse. Bonsoir Bernard. À mes côtés pour Bonsoir. Mener cette interview, il y a Marine. Je te laisse la parole.
Bonsoir Bernard, vous allez bien ?
Ça va, bonsoir.
Merci d'être avec nous sur Radio Campus Paris ce soir pour parler d'un sujet important pour vous et je l'espère pour nous tous aussi. Est-ce que vous êtes prêt pour cette interview ?
Pas de problème, je suis tout à fait disponible.
Bah, c'est parfait.
Pour faire le point sur cette lutte.
Donc déjà, pour parler un peu de vous, Bernard, vous êtes professeur de maths à la retraite. Vous êtes aussi militant depuis 10 ans pour la préservation des terres en Ile-de-France. Vous êtes porte-parole de Oui aux Terres de Gonesse et c'est déjà pas mal. Est-ce que j'ai bien dit tout ce qu'il fallait ?
Depuis 10 ans, je dirais que depuis 30 ans, puisque j'habite sur la partie ouest de la plaine de France. Et depuis que j'y habite, je me suis mobilisé pour défendre les espaces agricoles. Et ensuite, on a eu le projet, ça ne fait pas 10 ans, ça fait 15 ans, le projet sur le triangle de Gonesse, Europa City. Mais ça fait depuis que Roissy, que l'aéroport de Roissy existe, il y a la volonté des élus de bétonner le triangle de Gonesse. Qui fait un ensemble de terres agricoles tout à fait fonctionnelles et qui mérite un tout autre projet que l'urbanisation. Mais on va y revenir.
Oui, justement, on va revenir sur le triangle de Gonesse. Déjà, est-ce que vous pouvez nous préciser qu'est-ce que le triangle de Gonesse ? Parce que dit comme ça, peut-être que ça ne parle pas à tout le monde. Où est-ce que ça se trouve ? Et si vous savez pourquoi il porte ce nom,
oui.
Peut-être.
Il se trouve sur deux communes, Roissy et Gonesse, c'est pour ça qu'on l'appelle Triangle de Gonesse. À l'origine, c'était un triangle sur les deux communes, donc de Roissy et Gonesse, entre les deux aéroports, l'aéroport de Roissy au nord et l'aéroport du Bourget au sud. Il a été urbanisé, le millier d'hectares a été urbanisé au nord sur la commune de Roissy et au sud sur la commune de Gonesse. Il reste à l'heure actuelle 670 hectares, donc ce qui fait quand même un espace non négligeable et qui communique avec tout le reste des espaces agricoles de la plaine de France. Donc c'est un espace qui présente un intérêt pour l'agriculture et pour l'alimentation. Et voilà pourquoi on le défend. On l'a défendu contre le projet Europa City, le méga projet de centre commercial et de loisirs qui voulait concurrencer Disneyland Paris, qui a été abandonné en 2019 par le gouvernement présidé par Emmanuel Macron. On s'est satisfait de l'abandon d'Europa City, bien évidemment, mais pour l'instant, on n'a pas obtenu ce que l'on souhaite, c'est-à-dire développer un projet agricole et alimentaire sur ce triangle. Et on en arrive à la nécessité de développer l'agriculture biologique pour la restauration collective 100% bio. Voilà où nous en arrivons après de multiples événements.
D'accord, bah merci pour ces précisions. Peut-être qu'on peut revenir un peu sur la chronologie des faits dans cette zone. Donc, c'est une zone donc, dans le nord-est parisien, dans le Val d'Oise. Donc, pour revenir donc, sur quelques dates importantes, donc, dans les débuts des années 90, il y a un débat qui tourne, qui commence autour de l'urbanisation de ces 700 hectares, donc le triangle de Gonesse. Donc après ce début des débats, en 2010, il y a un projet, donc comme vous l'avez évoqué, d'Europa City, qui est porté d'ailleurs par le groupe Auchan et par un groupe, le groupe Wanda, qui est un groupe chinois. Donc c'est 80 hectares de complexes de loisirs et de commerce, donc 500 boutiques, 5000 m² de parcs d'attractions et même une piste de ski intérieure. Bon, allez, ça, ils se sont ravisés sur le projet, mais je crois que c'était... C'était sur le premier projet. Et donc, en promesse, 11 500 emplois créés. Ensuite, en 2013, 400 hectares de terres ont été sanctuarisés. C'est bien ça ?
370 exactement. Ils disent 400 parce qu'ils auraient dû en sanctuariser 400 s'ils avaient respecté le schéma régional d'Île-de-France. En fait, réellement, c'est 370. Sanctuariser ne veut rien dire. Parce qu'il n'y a aucun projet dessus d'évolution. Ils ont fait une zone agricole protégée, mais sans aucun projet. C'était l'alibi, le greenwashing pour justifier Europa City et dire, vous voyez, on protège des terres agricoles et on détruit, enfin, on les détruit principalement.
Et c'est qui, ils, quand vous dites ils ont
Vous l'avez évoqué dans le... programme de la matinale, vous avez dit qu'il était question de Nicolas Sarkozy. C'est effectivement Nicolas Sarkozy qui est à l'origine de ce projet-là, avec tout son projet de métro express, de Grand Paris Express, dont Nicolas Sarkozy, qui a été élu président de la République en 2007, n'acceptait pas que ce soit une majorité de gauche qui... soit à la manœuvre pour élaborer le schéma régional. Donc, il a eu cette idée géniale et il l'a emportée idéologiquement en présentant le réseau de Grand Paris Express. Et nous, on a appris le projet de Auchan, le projet Europa City, en 2010, quand il y a eu la concertation sur ce métro et qui passe par le triangle de Gonesse, dont il n'a rien à faire. Bon, la gare est construite, qui a été prévue. Mais elle est en plein champ et elle restera en plein champ.
Et qu'est-ce qu'il y a autour de cette gare exactement ? Est-ce que c'est lié à quelque chose ou c'est juste une gare au milieu d'un champ finalement ?
C'est au milieu d'un champ, il n'y a aucun projet. C'était le projet, elle se justifie avec Europa City, mais l'aberration du gouvernement qui a décidé d'abandonner Europa City a juste raison.
Oui, le 7 novembre, exactement. Le 7 novembre 2019, ils ont abandonné donc, le projet Europa City.
Et le Premier ministre, M. Castex, est venu en 2021, le 7 juillet 2021, pour annoncer que la gare du triangle de Gonesse, qui avait été prévue pour Europa City, serait maintenue, mais sans aucun projet. Simplement, il a annoncé la cité scolaire, une cité scolaire internationale, sous le bruit des avions. Il faut savoir que le triangle de Gonesse, s'il n'a pas été urbanisé, c'est parce qu'il y a un plan d'exposition au bruit lié aux aéroports qui interdit le logement permanent.
Oui, parce que Europa City parce que
pouvait...
Allez-y, pardon.
Europa City pouvait construire de l'hôtellerie qui est du logement temporaire, mais on ne peut pas construire du logement permanent. Et un internat pour une cité scolaire, c'est du logement permanent, ce n'est pas du logement temporaire, ce n'est pas un hôtel. Le logement étudiant n'est pas un hôtel, c'est du logement permanent. Et on a pensé que M. Castex n'avait pas été mis au courant sur le plan d'exposition au bruit. Mais non, le gouvernement s'entête, le préfet du Val-d'Oise s'entête. On vient d'avoir une enquête publique sur la nouvelle création de ZAC, puisque la ZAC était de 300 hectares au départ pour Europa City, a été réduite à 122 hectares. C'est toujours 122 hectares de trop d'urbanisation. Mais il y a eu l'enquête publique sur cette création de ZAC de 122 hectares. La commissaire enquêtrice a donné un avis favorable pour la zone d'activité, avec la réserve contre la cité scolaire sur cette zone d'activité et demandant que la cité scolaire soit prévue sur un autre site dans le Val d'Oise. Mais le préfet passe outre l'avis défavorable pour la cité scolaire de la commissaire enquêtrice. Et donc, on vient à signer un arrêté préfectoral de création de la ZAC avec la cité scolaire. Donc, on va aller au tribunal, bien évidemment. On pense qu'elle ne se fera pas. En tout cas, on fera tout pour qu'elle ne se fasse pas. C'est inadmissible de mettre des jeunes dans la même situation, dans le plan Val d'Oise. Il faut savoir que dans le plan Val d'Oise, M. Castex avait annoncé plusieurs projets, dont le projet d'un centre pénitentiaire. Pour le centre pénitentiaire, il y a eu une concertation publique avec 6 sites qui ont été examinés, dont un site à Goussainville qui est dans la même configuration que le triangle de Gonesse. Pour des personnes qui purgent leur peine de prison, il a été convenu qu'on ne pouvait pas mettre dans de telles conditions des prisonniers, mais on peut mettre des jeunes collégiens, lycéens, étudiants dans ces conditions-là.
Juste pour savoir, là on est sur quelle sur la temporalité, c'était quand à peu près ça exactement que ça a eu lieu?
La concertation sur la prison a eu lieu en 2023.
Donc c'est les actualités récentes
depuis 2023,
au sujet du triangle de Gonesse.
On demande qu'il y ait une concertation comme pour la prison, qu'il y ait une concertation pour la cité scolaire, en examinant plusieurs sites, sachant que nous, on propose un site d'Anvilliers-de-Belle, qui est là où habitent les jeunes du territoire. Le préfet a refusé d'organiser la concertation et impose ce site-là. C'est inadmissible de la part du préfet. On ne comprend pas cet entêtement, ce refus d'examiner d'autres sites.
D'accord.
Alors que pour les autres projets du plan Val d'Oise, il y a eu des concertations. Pour la cité scolaire, c'est un refus. Le préfet impose ce site et les élus du territoire laissent faire.
On va y revenir sur ces actualités récentes par rapport au triangle de Gonesse. Juste, j'aimerais revenir sur la période de 2021 pour qu'on reprenne un peu la chronologie des faits. Donc en 2021, donc vous et votre collectif donc de militants, aux terres de Gonesse, vous avez fait donc une ZAD, une zone à défendre pendant 17 jours sur cette terre pour donc protester de cette contre cette urbanisation. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous et les autres membres du collectif, à vous mobiliser et vous installer sur cette terre pendant 17 jours?
Ça correspondait au début du chantier de la gare, l'ouverture du chantier de la gare qui aurait dû être abandonnée et qui n'a pas été abandonnée. C'est pour réagir à cette l'annonce du début du chantier de construction de la gare sur le triangle, alors qu'il n'y avait aucun projet qui justifiait de démarrer, de faire cette construction sur le triangle, et pour préserver notre objectif de préserver les terres agricoles et développer un projet d'agriculture. Il faut savoir que le Val d'Oise a la particularité d'être la lanterne rouge de tous les départements de France pour l'agriculture biologique.
D'accord.
Dans le Val d'Oise, il y a 1,6% de terres agricoles cultivées en bio, alors que l'île de France est à 7% et la France est à 10%.
D'accord.
Donc on est dans le Val d'Oise, les élus, la profession agricole en a une certaine responsabilité. Il est temps de rattraper ce retard.
Mais justement, j'aimerais bien qu'on en revienne par rapport aussi aux impacts sur la biodiversité et sur les écosystèmes que peuvent avoir ce type de projet d'urbanisation. Mais d'abord, on va faire une petite pause et on va écouter Where is my husband de Ray et on reprend tout à l'heure Bernard.
Your husband is coming.
C'était Where is my husband de Ray. Il est 19h19 et vous êtes toujours sur la matinale de Radio Campus Paris. Nous sommes toujours avec Bernard Loup, porte-parole de l'association Louis Hoguenès.
Bonsoir, rebonsoir Bernard, est-ce que vous nous entendez toujours ?
Oui, très bien.
Bah super, et bah on va reprendre cette interview. Donc je voulais qu'on reprenne le sujet de l'impact de l'urbanisation sur les écosystèmes et sur la biodiversité du triangle de Gonesse. Est-ce que vous savez exactement quelle impact ça a sur ces terres. Une urbanisation telle que un projet de ligne de métro, comme il y a toujours en cours.
Si on regarde une carte de la région parisienne, on s'aperçoit que c'est ce qu'on appelle une pénétrante au sein de la partie urbanisée de la région parisienne, pénétrante du triangle Gonesse qui se prolonge par le parc de la Courneuve ou le parc Georges Valbon sur la Seine-Saint-Denis et qui contribue à une qualité de vie, un refroidissement quand il y a des pics de chaleur. On a noté lors d'une occupation du triangle, en pleine canicule, un écart à 5 heures du matin de 8 degrés entre la température du triangle de Gonesse et la place de l'Hôtel de Ville à Paris. Ces 8 degrés d'écart, c'est ce qui permet de rafraîchir la température sur toute la zone urbanisée de l'Île-de-France. C'est un des intérêts. Et aussi, pour vivre, il faut boire et manger. C'est une façon aussi, en développant la culture bio sur cet espace-là, de pouvoir s'alimenter et boire. C'est vital. On ne pourra pas indéfiniment aller chercher à l'autre bout de la planète notre nourriture. C'est un enjeu.
Et est-ce qu'à ce jour, ces terres, elles sont cultivées? Est-ce qu'elles sont fertiles? Est-ce qu'il y a possibilité de faire quelque chose de ces terres? Ou finalement, on ne peut plus rien y faire?
On peut y faire, elles sont cultivées. Et il n'y a pas besoin, comme dans d'autres régions en France, de faire des bassines pour avoir d'excellentes récoltes et d'excellents rendements dans la culture de maïs. Donc elles sont essentiellement cultivées par des céréaliers, blé, maïs, mais certains commencent à se rendre compte qu'ils ont intérêt de se diversifier et que l'agriculture mondialisée n'est pas leur avenir pour eux. Il y a une nécessité de faire évoluer, et c'est notre objectif, d'aller vers une évolution de l'agriculture, une agriculture saine, de qualité. Et pour nous, il n'y a que l'agriculture bio qui répond à cette question de santé. Et beaucoup de collectivités, et on est dans une période de préparation d'élections municipales qui nous est favorable.
Effectivement.
Pour développer, c'est la responsabilité des municipalités de développer la restauration collective. Il y a la loi... le nom m'échappe. Peu importe. Qui impose un certain pourcentage de denrées bio dans la restauration collective. Il y a le projet AgriParisienne de la ville de Paris et de la métropole du Grand Paris qui a pour objectif 100% de bio dans la restauration collective. L'agriculture existe en Île-de-France, dont elle doit contribuer à fournir les denrées bio nécessaires à la restauration collective. Et le triangle Gonesse peut y contribuer. Et après Europa City, un projet exemplaire de la culture biologique sur le triangle serait une bonne fin de cette histoire d'Europa City. Voilà notre objectif.
Et les riverains de cette zone, le triangle de Gonesse, est-ce qu'ils se sont mobilisés à vos côtés ou c'était un mouvement vraiment de votre part du collectif? Quelles étaient leurs positions aux riverains?
On n'a eu aucune difficulté pour faire signer les pétitions et on peut dire que le maire de Gonesse n'a pas réussi à convaincre les habitants. Il essaye de faire croire que la gare est à Gonesse. Et d'ailleurs, il l'a débaptisée. À l'origine, elle s'appelait gare du Triangle de Gonesse. Il l'a débaptisée gare de Gonesse. Mais les habitants se rendent compte qu'elle n'est pas à Gonesse et ils nous soutiennent. Et au niveau de l'élection municipale, on était dimanche dernier sur le triangle. Et d'ailleurs, j'appelle vos auditrices et auditeurs à venir voir ce qu'est le triangle de Gonesse s'ils ne sont pas déjà venus. Le dernier dimanche de chaque mois, on organise une ZAD dimanche. La prochaine, c'est le 30 novembre. Donc, venez sur le triangle, portez votre plat préféré, sucré, salé, on partage le pique-nique, on fait visiter à ceux qui viennent, le triangle, venez le découvrir. Vous comprendrez pourquoi on se bat depuis 15 ans maintenant pour préserver cet espace agricole. Venez passer un moment sympathique le 30 novembre et venez soutenir cette lutte. Pour l'agriculture.
Merci Bernard, je suis sûre qu'il y a des auditeurs et auditrices qui seraient ravis de venir vous soutenir, vous et votre collectif Oui aux Terres de Gonesse. Juste, je voudrais revenir sur vous, votre activisme, votre histoire de militant. Donc vous avez grandi dans le Tarn et très jeune, vous avez été très proche de vos terres et de l'agriculture. C'est pour ça d'ailleurs que vous soutenez avec tant de vivacité cette lutte. Comment cette enfance dans les terres du Tarn, elles ont impacté vos actions de militant aujourd'hui et ces dernières années ?
Certainement, j'aurais jamais imaginé, j'ai passé mes 10 premières années, mon père était instituteur de campagne, il n'y avait que des fermes autour de l'école, classe unique, et le tas de fumier de la ferme voisine à l'école, devant la cour de l'école. Certainement que ça m'a prédisposé à ne pas comprendre la mère de la commune où j'habite dans le Val d'Oise maintenant. À Domont, qui considérait qu'il fallait urbaniser les terres puisque les enfants d'agriculteurs ne prenaient pas la suite, n'avaient pas compris que le métier de paysan, de paysanne, n'est pas réservé aux fils, aux filles d'agriculteurs. Il y a de plus en plus de jeunes qui décident d'apprendre ce métier, qui est un bon métier et qui a du sens. Et qui change leur métier. On a d'ailleurs, en 2019, quand le gouvernement a abandonné Europa City, on a la fille d'un agriculteur avec lequel on travaillait, qui travaillait dans la publicité, qui a décidé de revenir, alors qu'elle avait renoncé à prendre la suite de son père, a décidé d'y revenir. Et pour ceux qui habitent Paris, je les invite à aller au marché bio de Paris, aux Batignolles, dans Paris, au marché des Batignolles à Paris, le marché bio. Vous pourrez déguster, acheter des légumes des légumes de Gonesse, pas sur le triangle, mais qui sont produits à Gonesse, pas très loin de la mairie de Gonesse. Marie Proix, qui vend la production de légumes, qui est faite à Gonesse, de légumes bio.
Merci.
Vous pouvez acheter, mais allez-y de bonne heure, le samedi matin. Allez-y de bonne heure parce qu'il a très vite, sa production est très vite épuisée. N'attendez pas la fermeture du marché pour vous y rendre.
Merci pour ce bon plan. En plus, moi, je connais
le marché des Batignolles et à la date dimanche sur le triangle de Gonesse.
En plus, c'est un très beau quartier. Enfin, moi, j'y vais souvent, donc je passerai voir ce marché. Avec plaisir.
Vous pouvez dire que vous venez de la part du collectif. Notre collectif s'appelle Collectif du Triangle de Gonesse. C'est notre site qui s'appelle Oui aux Terres de Gonesse.
Et par rapport à votre collectif, tout à l'heure, vous m'avez parlé des jeunes qui vous entourent. Est-ce que vous voyez une certaine mobilisation de la part de la jeunesse pour ces terres et peut-être un activisme qui se renouvelle ?
Oui, dimanche dernier, à notre ZAD dimanche, on a deux militants, un de Villiers-le-Bel et un autre de Gonesse, qui sont en train de monter une liste pour les municipales, pour défendre et qui mettront en avant l'opposition à la cité scolaire, la cité scolaire sur un autre lieu, prioritairement à Villiers-le-Bel, plutôt que sur le triangle. Et qui auront dans la campagne, dans leur campagne électorale pour les élections municipales, mettront en avant la défense des terres agricoles du triangle de Gonesse et de la cité scolaire près des habitants et pas à côté d'une gare que les habitants n'utiliseront pas.
D'accord. Et si on voit pour le futur, quelles sont les prochaines actualités donc pour le triangle de Gonesse ? Est-ce qu'il y a donc, vous m'avez parlé des dimanches, quelles sont vos prochaines mobilisations ?
La dernière actualité qu'on a apprise, dont on a eu connaissance, qui date d'hier, le ridicule de certaines structures, le comité d'expansion économique du Val d'Oise, qui est porté par le Conseil départemental du Val d'Oise, la majorité LR, qui met en avant qu'il a eu une rencontre avec un avocat et avec un dénommé Majeb Mansour, qui développe un projet d'AgriCity. Voilà, après EuropaCity, c'est AgriCity qui est ce dénommé Mansour, s'est fait connaître pour le développement de la restauration rapide. Alors je vous passe toutes les termes, les anglicismes, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent parmi vous, Jean qui est pouffi, en pleine dynamique, l'enseigne de Match Burger, c'est la malbouffe, rien d'autre à la malbouffe. Voilà ce que met en avant le conseil départemental du Val d'Oise, qui est la lanterne rouge en agriculture bio, la malbouffe, pour développer sur le triangle de Gonesse, après EuropaCity, le projet d'AgriCity. C'est n'importe quoi, on va s'en occuper. Eh ben, nous, on demande une coopérative alimentaire.
On va suivre votre actualité, Bernard. Merci, on va suivre toute cette actualité. Et je suis sûre que d'autres auditeurs, auditrices vont vous suivre dans cette mobilisation. Et on va suivre ça de près chez Radio Campus Paris.
Merci. Merci encore à Radio Campus de parler du triangle de Gonesse. Merci à vous.
Avec plaisir.
À très bientôt.
À très bientôt, Bernard. Je vous remercie.
Merci beaucoup Marine pour cet entretien. Maintenant, on va écouter Fabien pour le Flash Info.
Le Flash Info de la matinale de 19h.
Bonsoir, et on commence tout de suite par la France. 10 jours après le vol spectaculaire de 8 joyaux de la couronne de France au musée du Louvre, 5 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. 2 autres hommes soupçonnés d'avoir participé au spectaculaire casse du Louvre, qui a fait le tour du monde, ont été mis en examen et écroués, mais les bijoux restent introuvables. Et puis politique, la proposition de résolution visant à dénoncer les accords franco-algériens du 27 décembre 1968, inscrite à l'ordre du jour par le Rassemblement national, a été adoptée à une voix près par 185 voix contre 184. International. Brésil, l'opération de police la plus meurtrière de l'histoire du pays. 115 narcoterroristes et 4 policiers sont morts selon les autorités. L'assaut dans plusieurs favelas de Rio a ravivé les critiques contre les méthodes violentes des forces de l'ordre, alors que le pays s'apprête à accueillir la COP30 à un an de l'élection présidentielle. États-Unis, une volonté de se mettre sur un pied d'égalité. Donald Trump a ordonné jeudi 30 octobre à son ministère de la Défense de commencer à tester les armes nucléaires des États-Unis. Cette annonce survient alors que Vladimir Poutine l'a défié, avec le test d'un drone sous-marin à capacité nucléaire. Sport. Tennis. Valentin Vacherot poursuit son parcours de rêve pour rejoindre les quarts de finale. Le Monégasque a dominé aujourd'hui le Britannique Cameron Norrie en 8e de finale du Master 1000 de Paris et se qualifie pour les quarts de finale. Et enfin, pour terminer, culture, la Paris Games Week, salon emblématique du jeu vidéo, revient avec une édition repensée et audacieuse. Pour la première fois, l'événement proposera des nocturnes avec une programmation enrichie de shows et invités emblématiques, sans oublier le Gala Trading Card Game et la finale Master sur League of Legends. Ça démarre aujourd'hui et c'est jusqu'à dimanche.
Merci Fabien pour ce Flash Info. Tout de suite, Go de Cortis.
This is Cortis. And we just released our first EP, Color Outside the Lines. Hope you guys enjoy that. And this is Go. Let's go.
Booty pity, I'm set out of sight. Paint the town, drunk, shaking lights. Put that in butter, hurry up, match your pipe. Say what? I just gotta get, watch me go. Go, go. Yeah. Let's go. Button at a ego in the studio.
La matinale de Radio Campus Paris.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Ce soir dans le Zoom, on reçoit le groupe Le Roi Summer. À mes côtés pour ce Zoom, Aude qui va mener cette interview.
Bonjour, bonjour à vous, merci d'être venu déjà.
Bonjour,
bonjour, merci.
Merci de nous accueillir.
Alors aujourd'hui, on reçoit le duo Le Roi Summer, 2 ans après leur premier long format. Leur nouvel album, Hier pour Toujours, sort ce 31 octobre sur le label berlinois Mannequin Records. Ils seront également en concert le 4 novembre au Pot Éphémère. Donc merci d'être avec nous. Le titre Hier pour Toujours, c'est un peu paradoxal. On entend à la fois le passé et le présent. Qu'est-ce que vous avez voulu dire avec ce titre, ce nom ?
Ouais, c'est un peu paradoxal. Enfin, il y a... Plutôt que du paradoxe, il y a quelque chose de l'éternel recommencement, de ce qu'on a vécu hier, on s'apprête d'une manière générale, ou dans l'actualité, par exemple, d'aujourd'hui, quoi, plein de trucs qui, a priori, appartiennent au passé, redeviennent à la mode. Je pense à tout un tas de gouvernements fascistes qu'on pensait avoir éradiqués, en tout cas en Occident, qui reviennent. Tout un tas de trucs qu'on pensait vraiment ancrés dans un passé qu'on n'aurait jamais connu. Bah, peut-être qu'on va s'apprêter à les vivre. Et c'est flippant. Et ce truc de, ouais, du serpent qui se mord la queue, quoi. Enfin, la boucle.
Éternel recommencement.
Ouais, c'est pas très drôle.
Pas vraiment. Et vous chantez parfois en français, parfois en turc. Comment vous choisissez la langue d'un morceau ? Est-ce que c'est instinctif ? C'est politique ?
En fait, la langue est surtout utilisée pour ses qualités sonores. C'est-à-dire qu'une langue a sa propre sonorité. Et ça va venir selon la musique et selon l'instru. On va choisir soit le français, soit le turc. Effectivement, après, les thèmes à l'intérieur vont traiter peut-être plus de ce qui se passe éventuellement en Turquie ou plus en France ou dans le monde.
Très bien. Vous êtes tous les deux d'origine turque, du coup ?
Non, je suis d'origine turque.
Tu es d'origine turque, ouais. Ok. Super. Vous avez un titre dans lequel vous mettez en avant des témoignages de Palestiniens et Palestiniennes vivant le chaos. Ce titre, c'est « Du plafond à la terre ». Mmh. Comment est-ce que vous avez eu ces témoignages et pourquoi c'était important pour vous de parler du génocide à Gaza ?
En fait, ces témoignages, on les a eus. En fait, j'écoutais le média Blast et il parlait de ce collectif, cette association « Voices for Gaza ». Qui mettait en avant des témoignages des personnes de Gaza, qui étaient mis en avant et par des artistes en fait qui lisaient ces témoignages et ça a été la source de certaines paroles. En tout cas, c'était ce qui était le plus proche et plus atteignable pour pouvoir écrire sur ça, tout en essayant de ne pas interpréter, mais plutôt de retranscrire, même si dans un morceau, finalement, il faut réarranger tout ça.
Oui, c'est pas lu tel quel. Enfin, c'est pas directement ce que les gens ont écrit. C'est ce que les gens ont écrit pour que ça sonne, je sais pas, comme un alexandrin, enfin, pour que ça rentre dans les cases de ce qu'on doit chanter. Quoi.
C'est ça.
Donc, on fait un Volcan qui a écrit le texte, a fait un peu son marché dans ce lexique et ces phrases et ces témoignages de Voices for Gaza. Ouais.
Merci beaucoup. Et vous jouez souvent dans des lieux indépendants, alternatifs. Est-ce que c'est important pour vous de garder ce lien avec la scène underground et avec des publics un peu en marge?
Oui, bien sûr. Bah, nous, en fait, on vient de là. Les premières scènes dans lesquelles on s'est épanoui quand on avait, à l'adolescence et après, c'était pas les salles de concert énormes ou les festivals qu'on pouvait pas se payer. C'est évidemment les trucs, je sais pas, dans des squats ou dans des lieux, dans des lieux qui étaient accessibles en fait, où c'était gratos, où c'était 5 balles, et en fait à ce moment-là, tu te rends compte que t'aimes, un style bien défini comme le rap, le métal ou je sais pas quoi. Bah, au sein de ces scènes, tout existe en même temps, dans la même soirée, tout existe dans la même prog. C'est super frais en fait de découvrir que t'aimes en fait tout ce qui peut sortir du cadre et les scènes, au-delà de proposer de la musique, elles proposent toute une façon de voir le monde, toute une lecture politique, toute une façon de se faire des potes aussi ou de faire la fête et en vrai ben tu te marres plus dans un squat où les gens ils sont tous là parce que c'est libre, c'est quasi gratos ou en tout cas c'est simple. Que au Hellfest où c'est 300 balles ou 400 balles le billet.
Et qui programme des gens pas très...
En plus
de ça. Alors, si vous deviez résumer ce disque en 3 mots, qu'est-ce que vous choisiriez?
Je commence.
Ouais, ben,
allez, je dis le premier. Pour moi, thérapeutique. Thérapeutique parce que, pareil, c'était des... Tous les textes, c'est la première fois qu'on fait ça, en fait, tous les textes ont une signification. Tous les textes reprennent un peu un peu l'angoisse dans laquelle on vit. Ça peut être Pamacroix, qui est plutôt un hymne antifa, par exemple, ou le morceau Encore, qui parle aussi de tout ce qui est religion prédominant, qui vient asseoir, on va dire, certaines règles, etc. C'est tout ça, enfin, pour moi, thérapeutique.
Ouais, puis le fait de. Quand on en parle, quand on met des mots dessus, ça permet aussi de construire sa pensée.
Ouais.
Les choses, elles existent quand tu les nommes, quoi, et quand tu les écris dans un morceau, elles existent pour toi, quoi. Après, peut-être pour les autres aussi, une fois qu'ils ont écouté le truc et qu'ils s'en emparent. Mais...
Vas-y, un deuxième. J'espère que t'as eu le temps. Là.
Ben, putain, non, j'étais captivé par ce que tu disais, je pense à rien du tout. Je pense que. Processus, peut-être. On a écrit d'une manière un peu différente que d'habitude, où cette fois-ci, on a écrit plein de choses, des choses qui n'étaient pas... Alors, à la fin, il y a 9 morceaux, enfin, il y a la même durée. Enfin, c'est un disque qui dure aussi longtemps ou presque que ce qu'on a pu écrire. Mais nous, dans notre manière d'écrire, les choses, elles ont changé, notamment dans le processus, pas forcément dans les machines ou dans les outils. Mais on n'a pas écrit de la même manière, on a écrit plein de trucs.
Comment les choses ont changé?
Justement, en écrivant plein de morceaux ou des bouts de morceaux et en se disant, OK, voilà, il y a une idée, elle sort, et puis on verra ce qu'on en fait. Mmh. Et des fois, des choses dans lesquelles on ne croyait pas trop, elles se transforment en quelque chose qui devient cool, vraiment chouette. Tu vois, genre, on a choisi des singles. A priori, quand on démarre, ça ressemble pas à un morceau qu'on va être super content de jouer et qui va foutre le feu. Et tout ça, c'est lié, en tout cas pour nous, ça a germé d'un processus nouveau qu'on a adopté pour l'écriture de tout le disque.
Eh bien, merci à vous deux d'avoir été avec nous sur Radio Campus Paris. Avant de se quitter, on va écouter un extrait de l'album Hier pour Toujours. Et tout de suite, on écoute Pamacroix.
Merci beaucoup.
C'était Pas ma croix de Le Roi se meurt.
La matinale de 19h.
On écoute Eve qui va revenir sur le cambriolage du Louvre et des nouveaux éléments dans l'enquête qui suscite toujours autant d'interrogations et de suspense.
Si. L'histoire est digne d'un film policier ou d'une série Netflix qui n'en finit pas, ne serait-ce que pour les méthodes d'intrusion et d'effraction lorsqu'on écoute le témoignage des personnes qui ont assisté plus ou moins au rapt des bijoux de la reine, et sans forcément écrire la suite des Trois Mousquetaires. Pour rappel, nous avons appris que le cambriolage du Louvre est un vol qualifié par effraction commis en bande organisée et association de malfaiteurs survenu le 19 octobre. Il est intéressant de voir à quel point les Français tiennent à leur musée en dépit des apparences. Agression, incompréhension, violence sont les termes récurrents et entendus pour qualifier ce vol. D'autres sont ahuris que l'on puisse s'en prendre au Louvre, joyau des joyaux. De plus, les bijoux n'ont pas été répertoriés ou n'appartiennent pas à un catalogue précis des collections des musées nationaux. Lors de son audition au Sénat, Laurence Descartes, présidente et directrice du Louvre, a déclaré qu'aucune caméra ne couvrait le balcon de la galerie d'Apollon, devenue tristement célèbre et hashtagisée sur Instagram. Cela pose bien sûr question sur les moyens de surveillance et de gardiennage du site lorsque celui-ci est juste classé monument historique. Mais qui a volé les bijoux de la couronne? Alors une chose est sûre, Rachida Dati, notre ministre de la Culture, a démenti toute implication. Certainement que les bijoux n'étaient pas à son goût et trop lourds à porter. Moi, c'est ce que j'aurais dit pour ma défense. En plus, porter une tiare tous les jours n'est vraiment pas chose aisée à notre époque. Depuis, je cite, « deux hommes qui avaient été interpellés samedi soir ont été mis en examen mercredi soir pour vol en bande organisée et pour association de malfaiteurs, en vue de commettre un crime et placés en détention provisoire », a annoncé le parquet de Paris. Ces derniers ont partiellement reconnu les faits, avait expliqué la procureure de Paris, Laure Bécuot, lors d'une conférence de presse en fin d'après-midi. Ils sont soupçonnés d'être ceux qui ont pénétré dans la galerie d'Apollon pour s'emparer des bijoux. La procureure a ajouté que rien ne permettait à ce stade d'affirmer que les malfaiteurs auraient bénéficié d'une complicité quelconque au sein du musée. Il s'agirait d'un groupe opérationnel plus large. Pour autant, les bijoux n'ont toujours pas été retrouvés et c'est ce qui semble préoccuper la procureure et la police. On peut effectivement se demander s'il y a des commanditaires. Lesquels? Un collectionneur? La mafia? Kim Kardashian? On parle du 93, plus connu sous le département de la Seine-Saint-Denis, où les interpellations ont eu lieu. Paradoxalement, tandis que Nicolas Sarkozy semble se morfondre dans sa cellule à la prison de la santé en lisant le Comte de Monte Cristo, décidément Alexandre Dumas à la côte ces temps-ci. Quoi ? On me dit dans l'oreillette que Nicolas Sarkozy souhaiterait écrire la suite du Comte de Monte Cristo. Avec ou sans bracelet à la cheville ? Cette affaire semble être un terrible et étrange écho sur les problèmes de budget et de déficit que la France rencontre. Pendant ce temps-là aussi, on ne rappelle pas assez le triste anniversaire des émeutes de 2005 suite à la mort de Ziyad Bena et de Bouna Traoré et les conditions dans lesquelles ces émeutes ont démarré, ni de l'état mental des habitants de Clichy-sous-Bois. C'est tout aussi étrange que 20 ans après, le même type qui voulait carcériser les banlieues se retrouve en prison. Vous allez sûrement me demander, mais quelles sont les corrélations entre les vols de bijoux et l'état de la banlieue ? Un des points communs, pas si évident mais existant, les effets dévastateurs des politiques post-coloniales lorsqu'il s'agit de la société moderne française. Entre autres, redonner un peu plus de moyens publics autant aux musées qu'aux banlieues serait à considérer. Je développerai plus, mais je vous laisse réfléchir aux enjeux. Bonne soirée.
Merci Eve pour ce retour très juste sur l'actualité.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
C'est presque la fin de cette matinale, mais pas tout à fait, puisqu'avec moi en studio, il y a la chronique libre. Bonsoir Arthur, tu vas nous parler...
Bonsoir.
Bonsoir, il me semble que tu vas nous parler de Sarkozy. Eh bien, on t'écoute.
Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 30 octobre 2025 et aujourd'hui, cela fait 9 jours que Nicolas Sarkozy est incarcéré à la prison de la santé. Eh oui, déjà 9 jours, c'est tout le principe des vacances, tu te rends pas compte du temps qui passe. Personnellement, ça fait plus d'une semaine que je me force à sortir de chez moi au moins une fois par jour pour la simple et bonne raison que... moi, j'ai le droit de le faire et pas toi. Parce qu'il faut profiter de chaque petit bonheur au quotidien. De leur côté, les proches de Carla Bruni ont dit qu'elle souffrait physiquement de la peine de prison de son mari dans un entretien accordé à Paris Match le 22 octobre 2025, soit le lendemain de l'incarcération. C'est-à-dire que le gars est parti une journée et à Neuilly, on ne sait plus comment mener une vie normale. On ne sait plus comment détourner les fonds. Les avocats veulent tous être payés en carte bancaire. Louis Sarkozy n'ose plus approcher une mangue à moins d'un mètre. Et pire encore, les Balkany ont annoncé qu'ils réfléchissaient à peut-être payer leurs impôts cette année. Mais on imagine un peu le niveau de désespoir que traversent ces gens-là en ce moment. À Neuilly, on est obligé de retenir Brice Hortefeux parce qu'il a envie de faire une Pierre-Jean Chalençon, se filmer, contre-plonger, les yeux rouges en hurlant « Mais rendez le bijou de Carla, bande de brigands !» Nos élites vont mal et tout le monde s'en fout. Bon, par contre, blague à part, Carla Bruni qui souffre physiquement parce que son mari est en prison depuis une journée. Eh Carla, eh, pas nous. Ça, c'est un mensonge. T'es bien contente que l'autre relou, il soit plus là. Et je peux pas te jeter la pierre, j'ai fait la même chose. En octobre 2011, j'étais en troisième. On nous a annoncé que notre prof de maths serait absent pour une semaine pour des raisons gastriques. Et moi, j'ai réagi de la même manière. Quoi ? Monsieur Bartoli ne sera pas là ? Oh non, mais comment va-t-on faire pour occuper tout ce temps libre à présent ? C'est le cœur lourd que je vais devoir m'adonner à l'activité qui consiste à s'amuser. Alors ne nous mens pas, Carla, on te comprend. Là, t'as un mois à peinard à plus entendre les talonnettes du frérot claquer sur le parquet comme si c'était Ryan Gosling dans La La Land. Un mois de grande régalade où plus personne va te forcer à regarder CNews en boucle toute la journée. Tu vas enfin pouvoir regarder Bienvenue chez les Ch'tis sans te sentir jugé. Carla, aujourd'hui, c'est la change de ta vie. Brise tes chaînes. Déménage à Montreuil. Dévalise toutes les friperies de Belleville. Prends tes places pour la prochaine fête de l'Huma. Fais-toi une Atéba. Et de toute façon, ce sera toujours mieux que d'aller à 4 parloirs par semaine pour écouter Nicolas te dire qu'il n'arrive pas à lire la biographie de Jésus parce qu'il n'y a pas de coloriage à l'intérieur, nourrir Louis Sarkozy à la petite cuillère en faisant des bruits d'avion pour qu'il accepte de manger ses brocolis. À la limite, je pourrais comprendre que tu craques pour un escape game avec les Balkany. Parce que j'avoue que voir Patrick essayer de sortir d'une salle avec ses vitres avec ses vitres teintées d'Opel Corsa qui lui servent de lunettes, ça peut être drôle. Mais franchement, sur tout le reste, c'est un enfer. En plus, Carla, t'es au-dessus de tout ça. Toi, t'es une chanteuse, t'es une artiste. Sors un album Confession où tu parles de ta vie de couple avec Sarkozy. Tu l'appelles Quelle indignité. Et tu finis par te barrer avec ton premier amour avec lequel t'as renoué sur Copain d'avant pour aller élever des poneys dans le sud de l'Auvergne. Mais qu'est-ce qui t'en empêche, Carla ? Mais rejoins-nous. Regarde comme on est bien, comme on jubile, comme ça, main dans la main, depuis que l'autre, il est en zonze. On n'a pas un rond, on se fait rouler dessus par les gouvernements, mais on est libre. Alors, Carla, rejoins-nous. Rejoins la grande fête. Et si tu le fais pas pour toi, fais-le au moins pour lui casser les couilles. Merci beaucoup de m'avoir écouté.
Merci Arthur, tant de conviction dans cette chronique.
De vous avoir écouté jusqu'au bout.
Nos invités Bernard Lou, Mathieu Volcan du groupe Le Roi se meurt. Merci également aux bénévoles qui ont participé à cette matinale, Ève, Arthur. Merci Théophile qui était ce soir à la réalisation et évidemment merci à Aude qui a animé avec moi cette matinale.